Et du coup, aujourd'hui, comme on l'a partagé par divers moyens, on avait à cœur de démarrer une nouvelle série. Alors, je ne sais pas si Audrey, tu trouveras le PowerPoint sur la clé. Tu l'as, c'est génial. Notre culture, voilà, magnifique. Notre culture, parce que, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait déjà fait ça il y a 2 ans, presque jour pour jour, parce que je voulais partager sur un thème au début, puis ensuite ça a changé, mais toujours est-il que je me suis rendu compte de la date de mon message, et c'était, je crois, le 13 ou le 11 novembre 2016. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était super important de revenir régulièrement sur ce sujet-là. Parce que notre culture, on va parler de ce que ça veut dire, mais notre culture d'église, c'est quelque chose qui est auquel on peut ne pas forcément prêter attention et ne pas y être intentionnel, mais en fait, ça a énormément d'importance, d'où l'importance de revenir régulièrement sur ces sujets. Et du coup, il y a toujours, en fait, dans quelques groupes que ce soit dans une église, mais aussi en famille, au boulot, entre amis, ou même à l'échelle d'un pays, il y a toujours une culture. Et on peut le voir d'ailleurs, je reviens encore sur ces fameux gilets jaunes, on peut voir ces 2 derniers jours qu'il y a une culture en France. Il y a une culture de la protestation, où, dans laquelle on est vraiment pas mal, on se défend très bien. Et très honnêtement, comme je vous le disais au début, moi je comprends, je parle à pas mal de gens et je comprends vraiment que les gens soient en colère dans un sens, parce que la vie n'est pas facile pour tout le monde et peut-être que pour toi ici dans la salle cet après-midi, la vie n'est pas facile pour toi, même financièrement, etc. Et c'est pour ça, loin de moi l'idée de moquer ceux qui sont sortis dans la rue, mais ça, c'est bien l'image qu'on a une culture en tant que peuple français. Et en fait, la première fois que j'ai entendu parler de ce concept de culture, c'était il y a pas mal d'années, il y a à peu près 10 ans. Au travers d'un livre qui s'appelle La culture justement de l'honneur par un pasteur américain que j'aime énormément, Danny Silk, en Californie. Et dans ce fameux livre, il parle de plein d'aspects de la vie d'église et notamment tout le premier chapitre, en fait, il raconte une histoire. Vous savez que là-bas, ils font une école du surnaturel dans l'église Bethel, là-bas où il est. Et en gros, c'est une école de disciples, mais qui est sur 3 ans. Enfin, vous pouvez faire les 3 années. Et il se trouve qu'il y avait ce couple, enfin, ils se sont mis en couple, en fait, pendant la première année. Et ils avaient été reçus, parce qu'il y a carrément un petit diplôme que vous avez en fin d'année. Vous n'êtes pas garanti d'aller en seconde année, mais eux, pour le coup, c'était le cas. Et pendant l'été, entre les 2 années, il se trouve qu'ils ont des relations sexuelles. Il se trouve que, je vous la fais très courte parce que voilà, j'ai pas forcément le temps de tout détailler, mais il se trouve qu'elle tombe enceinte, ce qui arrive régulièrement dans ce genre de choses. Et ils arrivent, c'est la rentrée pour arriver en 2e année. Et là, c'est le pasteur qui s'occupe plus particulièrement de la 2e année qui va voir le leader, un des leaders principaux de l'église, donc Danny, et qui lui dit, écoute Danny, on a un problème. Il y a ce couple de première année. Ils arrivent en 2e année. Voilà ce qui s'est passé cet été. Elle est enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, gros problème, comment on gère ça, quoi. Et c'est vrai que plein de fois, moi, je peux me retrouver dans des situations comme ça aussi. Il y a des gens qui font des choses, ou même moi, et combien on peut avoir des réactions parfois plutôt que des réponses qui ne sont pas forcément, je pense, celles que Dieu ou Jésus aurait à notre place. Et émerveillé de voir la manière dont il gère ce cas-là en aidant ce fameux couple à faire face aux conséquences de leurs actes, mais pas de la manière sincèrement dont moi j'aurais imaginé. Donc ça passe surtout par des démarches de pardon envers leurs proches, leurs amis, mais aussi envers tous les premières années pour qui eux, deuxième année, sont un peu des modèles. Aussi les deuxièmes. Et en fait, si vous voulez, il y a tout ce processus de restauration qui se produit, où à chaque fois on voit le royaume qui arrive, on voit tous les premières années qui se lèvent avec eux et sans être dans les jugements qui viennent les bénir, qui viennent intercéder, tout ça. Et il y a tout ce processus de demande de pardon, de restauration, du coup de pardon, mais aussi les ricochets positifs que ça a pour énormément de gens dans l'église. Et là, moi je dis waouh quoi. Combien j'aimerais avoir le recul dans ce genre de situation et peut-être j'aurais à faire face à ce genre de situation dans ma vie comme responsable d'église ou même tout simplement comme père, je veux dire, on est tous appelés avec nos enfants ou quoi, à vivre des situations similaires parfois. Voilà. Et du coup, mais vraiment, ce qui m'a marqué là, c'est la culture, c'est-à-dire la manière dont ce fait-là a été appréhendé par cette église, par cette équipe. Et ensuite, il y a l'enfant qui naît et qui, dans les premiers jours de vie, perd la vie en fait. L'enfant est au final à deux doigts de mourir. Et là, il y a tous les mensonges. Ah, mais c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, c'est parce qu'ils ont péché que machin et tout. Et là, non, comment toute l'église s'élève. Et le pasteur, quand il raconte ce témoignage, vous pouvez trouver ça en vidéo, vous tapez la culture de l'honneur d'Annie Silk sur internet, vous trouverez tout ça en anglais si vous parlez l'anglais. Et là, il pleure quand il raconte ça, qu'ils se sont élevés contre les mensonges ennemis. Il dit non, Dieu a pardonné tout ça. Cette... Et comment après la guérison de cet enfant arrive. Et j'ai même vu récemment une vidéo de cette fille qui a 13 ou 14 ans aujourd'hui, ce petit bébé, Anya. Et c'est extraordinaire. Mais voilà, je ne vous raconte pas les détails, mais juste pour vous dire cette culture. L'importance de la culture dans une communauté, que ce soit, encore une fois, famille, travail. Il y a des endroits comme ça où on peut voir qu'il y a une culture particulière. Par exemple, si vous allez chez Starbucks, il y en a peu en France encore, mais les cafés Starbucks, vous verrez, on écrit votre prénom. Maintenant, c'est à la mode un peu partout, mais c'est votre prénom qu'on écrit. On vous traite d'une certaine manière. Il y a une ambiance particulière dans ces lieux. C'est ça la culture. C'est vraiment l'atmosphère qui est véhiculée par des valeurs. Donc voilà, je vérifie parce que j'ai tendance par passion à m'éloigner de mes notes, mais voilà, j'ai envie qu'on finisse à l'heure. Donc voilà. Et pour parler de ça, ça m'a intéressé de voir que dans la Bible, parlons un peu de la Bible quand même, c'est bien. Il y a 100 fois, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 100 fois dans 94 versets différents le terme les uns les autres. Partout vous trouverez dans la Bible ce terme les uns les autres. C'est Paul qui l'utilise la plupart du temps. Pour 60% des fois, c'est Paul qui l'utilise. Et il s'adresse, vous savez, Paul s'adresse la plupart du temps à des églises, des communautés en tout cas. Et il y a donc quelques exemples. Accueillez-vous les uns les autres, Romains 15, 7. Vous supportant aussi les uns les autres. Des fois, c'est un peu plus dur que d'autres. Éphésiens 4, verset 2. Et bien sûr, le si connu et le si important, aimez-vous les uns les autres dans Jean 13. Et c'est des versets qu'on lit tout le temps. Je ne sais pas si c'est comme moi, vous lisez des versets qu'on connaît par cœur, qu'on lit tout le temps, mais des fois, paf, on se rend compte que on a saisi qu'un petit bout de ce que ce verset pouvait vouloir dire. Et dans ce aimer les uns les autres, il y a tellement de facettes dans le fait de s'aimer les uns les autres. S'aimer, enfin, aimer quelqu'un, ça ne se montre pas, enfin, on dit j'aime quelqu'un, c'est pas quelque chose qui se dit comme ça, c'est quelque chose qui se montre ensuite par des actions concrètes. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible est du coup pleine d'encouragement à adopter certaines attitudes en tant que communauté, donc ces fameux les uns les autres. En tant qu'Église, c'est ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, mais tout simplement avec ces fameux autres. Et ces autres-là, nos prochains, comme la Bible dit aussi, il y en a de partout. Et même la Bible va jusqu'à dire, Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Là, il est parlé d'amour, mais je pense par extension que ce verset vraiment nous dit que la façon dont nous nous traitons les uns les autres, dans la façon dont nous comportons les uns avec les autres, ça va permettre à ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas encore Jésus, de nous identifier comme disciples de Jésus. Ils vont dire, purée, lui, il a certaines attitudes et tout, ça va poser question. Et ça va poser question, et peut-être que la question va nous être posée, et que là, on va pouvoir dire, oui, c'est Jésus. Comme à l'époque, les disciples, on leur disait, ah, mais je t'ai reconnu, toi, tu étais avec Jésus. Ou les disciples, vraiment, une fois que Jésus était parti... agissait tel que Jésus, et les gens savaient que c'était les disciples de Jésus parce qu'ils guérissaient les malades, parce qu'ils étaient comme Jésus était, ils faisaient ce que Jésus faisait. Et donc je vous ai parlé de la première fois que j'ai entendu parler de ce concept de culture, mais maintenant je vais vous raconter la première fois que j'ai eu accès à, enfin non, plutôt que ce concept de culture, c'est vraiment imposé à moi, que je l'ai pris en pleine figure, mais de manière très positive. Et du coup, comme vous le savez, on était à Bedford, donc avec la fameuse équipe, entre autres, qui était là le week-end dernier. Et en début d'année, je me rappelle, il faisait très froid, c'était septembre, il faisait très très froid. On m'avait proposé de participer à un jeu de touch rugby, pour ceux qui ont du rugby en fait, mais où vous plaquez pas, juste vous touchez. Et quand tu touches quelqu'un, ça veut dire comme si tu l'avais plaqué. Et en fait, on avait rendez-vous sur ce parking pour jouer. Et du coup, on arrive tous sur le parking et il y a une des filles qui était là pour jouer aussi, qui s'était garée un peu plus tôt. Et qui n'avait, le parking était gratuit, mais il fallait quand même mettre un ticket. Et elle n'avait pas mis de ticket, elle avait pris un PV. Et donc ok, donc je me rends compte de ça, donc un peu comme tout le monde, j'étais un peu embêté. Sauf que d'un coup, qu'est-ce que je vois faire les gens ? Ils prennent dans leur sac, ils cherchent et tout machin, ils cherchent dans leur poche. Je vois des gens qui commencent à lui donner de l'argent comme ça, une livre, deux livres sterling, trois ou peut-être quelques centimes qu'ils avaient dans la poche. Et du coup, ben, en trois minutes, elle s'est retrouvée avec plus d'argent que ce qu'il ne fallait pour payer son PV. C'était genre 20 euros ou 30 euros, son PV, quelque chose comme ça. Et ça peut paraître insignifiant, mais ça m'a vachement marqué, quoi. Je me suis dit, mais purée, quelle spontanéité dans le fait d'être solidaire avec cet ami, sans même y réfléchir, sans même penser, tac, waouh. Et ça m'a vraiment interloqué. Et plus tard, en vivant dans cette communauté-là dans l'année, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit « Ah, mais voilà, ces gens sont habitués à vivre comme ça ensemble, en fait. » Parce qu'en fait, comme je vous le disais, je pense qu'il faut partir du principe que dans un groupe, il y a toujours une culture. Par contre, parfois, ça peut être positif, parfois, ça peut être négatif. La manière des gens... de se traiter les uns les autres, elle va toujours il va toujours y avoir une manière, une habitude dans un groupe de se traiter, de se comporter les uns et les autres. Et comme définition de culture dans le dictionnaire, je pense que c'est pas mal. J'ai trouvé, on peut définir ça comme l'ensemble des croyances, mais aussi des valeurs très importantes d'un groupe et comment celles-ci influencent le comportement des membres de ce groupe. Et du coup, c'est pour ça que ça marche pas que pour l'église, ça marche vraiment dans tous les groupes. Et pour vous donner un petit exemple, il y a très longtemps, j'ai fait beaucoup de natation et aussi du water polo. Et le water polo, c'était un peu l'ambiance sport collectif, un peu bourrin, comme le rugby ou autre. Et j'aimais énormément ça. Simplement, plusieurs fois dans l'année, on partait jouer contre des équipes dans d'autres villes. Et donc, on dormait à l'hôtel et tout. Et j'étais ado, j'étais assez jeune en fait. J'avais 14-15 ans, je crois. Donc, il y avait des joueurs plus âgés. Il y avait plusieurs niveaux d'équipe. Et puis, il y avait le coach, bien sûr. Et c'est marrant, c'est vraiment en préparant ce message que je me suis rappelé ça. J'avais oublié ça depuis mes 15 ans, complètement oublié. Et je me rappelle qu'un des soirs où on était à l'hôtel, d'un coup, qu'est-ce que je vois sortir, plusieurs qui commencent à sortir de leur sac et tout, des fameux magazines avec des femmes extrêmement dénudées à l'intérieur, pour dire les choses de manière poliment. Et je les vois commencer à rigoler par rapport à ça, à s'échanger, à se montrer et tout. Et moi, je ne dis pas que j'étais le petit saint qui s'est mis de côté, non, resté dans mon coin. Non, j'étais là, j'étais surtout un peu choqué et à vrai dire, je ne savais pas trop comment... avaler ça, vous voyez ce que je veux dire? Quand on est jeune et on a un peu cette innocence, bien que j'avais 14-15 ans, je connaissais très bien l'existence de ces choses-là. Mais là, j'étais loin de ma famille, j'étais en vase clos un peu avec ces plus âgés que moi et même le coach. Et du coup, je me sentais pas super en sécurité. Et c'est alors que, et c'est pour vous dire que voilà, des fois, même ça peut être du coup aussi dans des clubs sportifs, dans d'autres, il peut y avoir une culture, il peut y avoir des valeurs qui vont influencer la manière. Parce que peut-être que parmi eux, certains n'étaient pas très enclins à regarder ce genre de choses. Mais il se trouve que vous savez, il y a cette fameuse pression de groupe, ces choses. Et comme quoi la culture, ça peut être aussi négatif. C'est d'où l'importance d'être intentionnel. D'être intentionnel. Et la Bible, c'est pour ça que la Bible nous dit « Faites ci, soyez comme ci, soyez comme cela les uns les autres ». Il faut être intentionnel parce que si tu n'es pas intentionnel, que ce soit à ton travail, que ce soit... je pense que c'est Dieu qui appelle pour confirmer que c'est vraiment très bien ce que je suis en train de dire là. Si tu n'es pas intentionnel, la culture va être déterminée. Parfois, ça peut être par le caractère des gens qui sont dans ce groupe. Parfois, ça va être les circonstances qui vont déterminer la culture. Mais la culture, elle va exister. Donc, il faut qu'on soit intentionnel. C'est un petit peu comme pour ceux qui font du jardinage, quand vous avez une serre, par exemple, ça vous permet de contrôler, Benjamin, je pense, pourra confirmer les choses que je dis, je ne vais pas m'avancer dans trop de détails, mais quand vous avez une serre, par exemple, ça vous permet d'avoir tout simplement une température particulière pour que certains produits qui ne pourraient pas grandir en dehors de cette serre, pousse là. Vous avez le fait de désherber, vous avez le fait, c'est mon papa qui m'expliquait ça, de mettre du fumier autour de certaines plantes pour rendre la terre un peu plus fertile et puis pour empêcher que les escargots viennent manger les feuilles. Il y a plein de choses dans un jardin qu'on peut faire pour s'assurer que c'est les bons fruits au bon endroit qui vont pousser. Et si vous voyez mon jardin en ce moment, vous verrez que je n'applique pas exactement ces principes, mais pour ceux qui les appliquent, vous le verrez. Donc vous pouvez aller voir ceux qui sont dans ce secteur professionnel pour demander confirmation. Mais vraiment, et la culture même dans l'église qu'on a à cœur de vivre, c'est ça, c'est vraiment d'être intentionnel sur certaines valeurs, certaines choses, pour que les bons fruits, pour que vraiment les œuvres bonnes que Dieu a pour nous de vivre, celles qu'il a préparées d'avance, eh ben on puisse les vivre, quoi. Et la culture, ça participe à tout cela. Je pense, comme je vous le disais, que même dans des cas désespérés, comme ce fameux club de waterpolo dont je faisais partie, je pense qu'on peut vraiment changer une culture. Je pense que on peut vraiment changer une culture. Dans Hébreux 12, il est écrit « Efforcez-vous de vivre en paix les uns avec les autres ». Ça veut dire que, si on regarde l'inverse de ce verset, ça veut dire que ben, des fois, on n'est pas en paix les uns avec les autres. Et ça veut dire des fois que ça demande un effort. Et je serais d'accord avec vous que changer une culture d'un groupe seul, c'est pas facile, ça demande un effort. Mais selon moi, c'est possible. Et j'ai cet exemple, je vous donne beaucoup d'exemples aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment concret, ça, comme message. On était boosté par tout ça à Bedford. On s'est dit, ah, culture de l'honneur, culture d'encouragement, on va ramener ça dans nos familles. On rentre pour Noël dans notre famille. Et je me rappelle, on était dans le salon de mes parents. On était une quinzaine de membres de la famille. Et c'était l'anniversaire d'Emmanuel, ma chère et tendre femme. Elle est née le 26 décembre. Et du coup, j'ai dit, comme c'est des choses qu'on pouvait faire à Bedford, ah ben, si, j'ai dit à tout le monde, est-ce que vous seriez d'accord que tous on dise quelque chose qu'on aime à propos d'Emmanuel, qu'on l'encourage en disant quelque chose comme ça? Voilà ce qui a suivi. Un grand silence. Et j'ai réussi à peu près à rattraper le truc, si, mais quand même, et tout, sa maman, son papa ont commencé à dire des choses, c'était pas exactement le genre de choses que j'espérais, enfin c'était des choses très gentilles si vous voulez, mais c'était pas sur la Emmanuel d'aujourd'hui qu'on connaît, qu'on aime tant, et c'était, franchement c'était un gros couac, et du coup on est rentré à Bedford quelques jours après, et on a pu prier pour ça avec Olivier Elodie, on a pu même dans notre groupe de maison francophone là-bas, prier pour elle, elle a pu verser beaucoup de larmes parce que ça a été très très difficile à vivre pour elle. Et ce qui s'est passé, c'était fou, c'est que dans notre groupe de maison, on a, après Noël, ce qui suit en général, c'est la galette des rois, les rois mages et compagnie, on a partagé la galette des rois et on avait dit, bah tiens, celui qui tire la fève, et là-bas les gens pour le coup étaient habitués à faire ça, on va l'encourager, lui dire qu'est-ce qu'on aime à propos de lui ou elle, etc. Devinez qui a tiré la fève? Emmanuel, je vous promets, je vous garantis, c'était pas prévu. Et là, les gens se sont mis à l'encourager, à dire « Mais t'es génial, quand tu fais ci, quand tu fais ça, la manière... » Et là, elle a recommencé à pleurer. Mais cette fois-ci, c'était vraiment des larmes de guérison. C'était magnifique. C'était magnifique. Parce que et du coup, je vous dis ça parce qu'il y a un mois à peu près, je sais plus ce que ma maman m'a dit, je me rappelle plus sur quoi c'était, mais elle m'a dit « Ah, Mathieu, vraiment, je te félicite parce que j'aime beaucoup quand tu dis des choses comme ça, j'aime beaucoup quand tu fais ça. » Et ça m'a étonné venant de ma maman, j'ai dit « Purée, mais maman, merci, mais merci de m'encourager comme ça, t'es chou et tout, merci beaucoup. » Elle me dit « Mais tu sais, Matt, genre d'entraînement pour des changeurs du monde. Vous savez, on a parlé de changer le monde avec Simon dimanche dernier. Là-haut, c'est le camp d'entraînement. Ils sont tous en train d'être touchés dans leur identité, d'apprendre, entendre la voix de Dieu, prier, voir pour que notre nation, pour que Montélimar soit transformé. Mais vraiment cet esprit de famille, voilà, on essaye toujours de trouver des manières, des techniques, mais que, en gros, voilà, moi, aujourd'hui, quand les gens me demandent « Alors, votre église, ça marche bien, les gens d'ailleurs, combien vous êtes ?» Vous savez, c'est toujours la question fatidique, parce qu'en fonction du chiffre que vous allez répondre, ben on va dire que ça marche ou ça marche pas. Et au début, j'avais toujours tendance à dire « Ah ben, oui, au début, je disais, on est 15 adultes, 15 enfants, voilà. » Et maintenant, je dis « Non, aujourd'hui, on est une église de 80 personnes, quoi, 80 agents du royaume, 80 fils et filles de Dieu, parce que ben c'est l'église, toujours les dire, ah oui, c'est la relève, c'est l'église de demain. Non, c'est pas la relève, c'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui, les amis. Parce que eux, déjà, même à l'école maternelle, ils peuvent guérir les malades, imposer les mains. Il n'y a pas d'âge dans le royaume, il n'y a pas de Saint-Esprit junior, les amis. Et on a vraiment envie de, voilà, cultiver. On va encore trouver, je suis sûr, d'autres manières de vivre cet aspect familial de l'église encore mieux. Mais en tout cas, c'est très cher à notre cœur. Honneur, authenticité, courage et famille. Et bien sûr, comme je vous le disais, il y a plein de déclinaisons différentes de chacune de ces valeurs, mais voilà, quand on croit vraiment, Et je pense que le Saint-Esprit confirme ça dans vos cœurs maintenant, que alors que nous cultivons ces choses-là, l'impact les uns pour les autres ici va augmenter, mais aussi l'impact extérieur de notre communauté va augmenter, et on va voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Moi, je vous promets, les amis, j'avais jamais vu. Selon moi, si on a vécu autant de miracles aussi le week-end dernier, c'est parce qu'on a parlé du Père. Et le Père, c'est une culture en soi. L'atmosphère qu'il y avait, qui était du coup propice à ce que Dieu se manifeste, c'est parce qu'il y avait le cœur du Père, il y avait l'amour du Père qui était là. Et quand on est dans cet environnement-là, le cœur s'ouvre, mais même les maladies, les malédictions, tout ça, ça ne peut plus tenir parce qu'il y a un environnement propice. Et voilà, on va terminer là. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et vraiment sceller ça dans la prière ensemble? Amen, Seigneur.